Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Ils sont également disponibles sur Facebook Studio Kalangou, sur le site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Le thème d'aujourd'hui est « Recyclage du plastique et du fer, avantages économiques et environnementaux ». Il n'y a pas de son métier, a-t-on coutume de dire. Cet adage trouve tout son sens quand on voit aujourd'hui comment les entreprises de collecte et de recyclage des déchets plastiques et fer et même les particuliers engagés dans ce secteur sont dynamiques avec une nette progression des emplois et des chiffres d'affaires. En effet, les entreprises de recyclage exercent des activités de récupération, de recyclage et de valorisation des matières métalliques et autres matériaux recyclables, papier, carton, plastique, verre, déchets, des équipements électroniques. Elles assurent également le commerce des matières premières recyclées. À côté de ces entreprises, il existe des particuliers qui procèdent à la collecte dans les grandes villes et même dans les villages et à la vente de ces produits. Pour mieux cerner cette activité et autres implications dans le secteur du recyclage, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio M. Ousmane Dantata, président Afrique Fondation Jeune. Bonsoir, M. Ousmane.
Bonsoir.
Madame Sani Amina Issa Ado. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Au micro, Balkissa Hamidou. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Dans la première partie de ce forum, nous allons parler du métier de recyclage. Monsieur Ousmane Dantata, qu'est-ce que le recyclage?
Bon, le recyclage, c'est un processus qui permet de réutiliser une matière, notamment, qui a déjà servi. Donc, on recycle, ça veut dire qu'on remet dans un autre cycle. Hein. Une bouteille, par exemple, qui a déjà servi, une bouteille d'eau plastique, on peut la réutiliser pour lui donner un autre cycle de vie, d'où le mot recyclage.
Quels sont les types de recyclage rencontrés ou possibles?
Alors, il y en a de toutes sortes. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est une tendance qui est mondiale. On s'est rendu compte que l'humanité a fait beaucoup de progrès à la fois dans les découvertes scientifiques, industrielles, qu'on a extrait énormément de matières premières, au point où, par exemple, que dans le cadre du plastique qui provient aujourd'hui principalement de la transformation du pétrole, on a produit à l'échelle mondiale des quantités qui sont devenues un problème, qui constitue un problème. Donc, le plastique est, par exemple, un grave problème si on ne prend des mesures. Et aujourd'hui, il y a toute une économie qui se développe pour le recyclage du plastique. Le papier, on sait que ça a été d'abord, dans un premier temps, essentiellement des forêts qui ont naturellement poussé, qu'on a abattu. Depuis plusieurs années, les fabricants de papier ont été quand même sensibilisés pour faire autre chose. C'est-à-dire que c'est des forêts qui sont plantées et dont le bois est utilisé, ou en tout cas, quand le bois est coupé, il est en même temps remplacé. Donc vous aviez toute une économie autour du recyclage du papier, c'est-à-dire que le papier qui a servi peut être utilisé pour faire encore un nouveau papier, hein, qui peut être utilisé de différentes manières, les cartons, etc. Il y a des matières souvent beaucoup plus solides. Vous avez parlé du fer, qui lui-même existe vraiment dans des concentrations qui sont énormes, beaucoup d'outils qui sont fabriqués, donc le fer aussi est réutilisé. Bon, enfin, voilà, il y a différentes façons de recycler les matières.
Comment se fait ce recyclage de déchets en fer et plastique?
Bon, c'est-à-dire que parfois, les objets peuvent être utilisés pour fabriquer d'autres. C'est le cas, comme je parlais, par exemple, des bouteilles plastiques. Aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent ces bouteilles, par exemple, pour construire. Hein. C'est possible. Donc, il est possible d'utiliser quelque chose qui a déjà été utilisé en l'état. Mais c'est aussi possible de découper la matière, comme par exemple, justement, de plastique dur, de découper cette matière et d'utiliser dans d'autres secteurs, soit directement comme ça, en particules ou bien refondus pour recréer d'autres objets.
Et nous allons revenir vers vous, Madame Sani. Quel usage peut-on en faire des matériaux recyclés?
Énormément, parce qu'aujourd'hui, le recyclage n'a pas de limite. Donc, moi, il y a une citation que j'aime bien, celle de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. » Et je me dis, en fait, dans le recyclage, il faut être créatif. Tous ces gens qui recyclent aujourd'hui, qui ont des modèles, surtout qu'on voit à la télé et sur les nets, c'est parce qu'ils sont créatifs. Du pneu, tu peux avoir, par exemple, le salon, tu peux avoir les poufs, tu peux avoir les balançoires, tu peux avoir les protège-arbres, tu peux avoir les poubelles, tu peux avoir, en fait, un tas de choses. Personnellement, je dirais pas qu'il y ait vraiment des limites. C'est tout ce qu'il faut. Par exemple, un moment, avec les écrans d'ordinateur, personnellement, on faisait des petits miroirs. C'est toujours des astuces, quoi. Je me dis, on réfléchit et puis, bon, on donne vie aux déchets. Comme j'aime le dire, les déchets valent de l'or.
Et quelle est l'importance du recyclage, qu'il s'agisse du plastique ou du fer?
Pour moi, aujourd'hui, personnellement, je pense que c'est vraiment dans le cadre du développement de toute une nation, de tout un pays. Parce que quand on recycle les déchets, on réduit les déchets. Et quand on réduit les déchets, on contribue à ce que les villes soient un peu plus propres. Je me dis, c'est un métier d'avenir même, parce qu'il faut investir dedans. Il faut permettre à tous ces acteurs qui ont l'amour de cette chose de se développer, d'avoir davantage des compétences et de le faire. Parce que ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le pays. Aujourd'hui, tout ce qu'on a comme déchets, si on arrive à les recycler, Niamey Niala sera davantage une réalité.
Comment se fait le recyclage des déchets plastiques et même ceux en fer à votre niveau?
On ne fait pas vraiment en fer parce que, c'est, vous savez, il y a plusieurs, comme disait mon tonton, en fait, il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs manières. Moi, par exemple, la majorité de nos recyclages, on fait ça, si je peux dire, de la manière brute, c'est-à-dire on ne les fait pas fondre pour créer d'autres choses. On les réutilise, peut-être c'est le mot qu'il faut. Donc, ça dépend non seulement des moyens, parce que pour recycler, il faut vraiment beaucoup de moyens. Par exemple, s'il faut avoir des broyeurs, je le disais tantôt, pour broyer tous ces pneus qu'on a et faire des revêtements des routes, c'est à des coûts de milliards. Vraiment, moi, je me dis, ça dépend des moyens et du niveau d'évolution de toute entreprise.
Pour mieux cerner les raisons qui ont poussé les jeunes à exercer ce métier, notre collègue Maman Ada s'est entretenu avec des jeunes qu'il a rencontrés dans la ville de Niamey.
Wannan sana'a muna yin ta ne ta dalilin mu samu abinci na munka kamar me yake ce mai ita wannan sunan sana'ata ana kiranta gongon me yasa ake ce mata gongon din ban sani ba dan mun ta samu iska ana ce mun
exerce ce métier juste pour avoir de quoi subsister. Comment on appelle ce métier que vous exercez? Nous l'appelons gongoni. Pourquoi on l'appelle gongoni? Moi-même je ne sais pas, nous avons trouvé ce nom comme ça. Dites-nous comment vous exercez ce métier. Nous utilisons les petits effets qui intéressent les enfants, comme la maquette de petits avions, d'une voiture que nous achetons au Nigeria. Quand nous sortons, nous avons une flûte que nous jouons et dès que les enfants entendent le son, alors ils savent là où nous sommes et ils viennent vers nous. Celui qui a une vieille boîte de tomates, une vieille boîte de lait, il nous la donne et nous lui donnons un effet ou du bonbon. C'est seulement ce qui est usagé que vous achetez? Oui, c'est seulement ce qui est usagé que nous achetons. Nous achetons de vieilles boîtes et de vieux ventilateurs, etc. Vous savez, la vente d'un produit est relative à sa qualité. Un exemple, si c'est un morceau de fer, nous le soulevons et nous estimons son poids. Alors c'est avec ça que nous payons, nous donnons le prix. Ces ferrailles que nous achetons, nous les compactons. Ainsi, nous achetons des sacs en jute pour les emballer. Nous les déposons au bord de la route pour attendre un camion dans lequel nous les chargeons et nous les acheminons à Sokoto au Nigeria. Non. Nous n'avons pas de problème avec les agents de sécurité qui sont au niveau des barrières. Il suffit que nous leur donnons quelque chose et ça passe. C'est un business, hein? Et nous remercions Dieu puisque nous arrivons à gagner notre pain. En réalité, à plusieurs reprises, quand les jeunes nous voient en train d'exercer, ils apprécient et disent que nous sommes à la recherche de la sueur de notre front. Cela est mieux que d'attendre l'aide de quelqu'un. Je vois que vous êtes en train de compacter les boîtes. Pourquoi? Oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour réduire le volume. Sinon, comme ça, combien de sacs en jute il va falloir faire pour amener à Sokoto? Bon, oui, le prix de deux sacs de boîtes usagées, bon, vous savez, les boîtes diffèrent. Il y a les boîtes à tomates, les boîtes de lait. Nous pouvons acheter un sac de boîtes à peu près à 500 francs CFA. Mais nous n'avons pas besoin des plastiques. peut-être les chaussures. Et même les vieilles chaussures, ce n'est pas au Nigeria que nous les vendons, c'est ici même à Katako. Pour ces ferrailles, en tout cas, nous ne savons pas comment ils sont transformés. Ce que nous savons, c'est que il est fabriqué avec ces ferrailles, souvent des tôles et autres instruments. C'est ce que nous savons. Et bien sûr, peut-être d'autres types de transformations qui peuvent être faites.
Est-ce que vous voulez réagir par rapport à son intervention? Nous allons commencer par vous, Soumane Danta.
Oui, je pense qu'il a parlé de l'économie. On peut retrouver vraiment
les avantages absolument économiques
liés à l'activité. Le fait que c'est une source d'occupation et d'emploi pour les jeunes, et pas que pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a des industries qui se développent dans le domaine du recyclage. Comme vous voyez, par exemple, l'énergie, il y a des centrales aujourd'hui qui peuvent fonctionner avec, à côté, par exemple, d'une déchetterie pour pouvoir produire ou du gaz ou de l'électricité carrément directement. Donc, c'est une source de revenus pour nous que de savoir que nous avons parfois produit ou importé des produits qui, aujourd'hui, nous posent problème dans le cadre de l'environnement, de l'hygiène, de la santé. Nous pouvons réutiliser ces matières-là, leur redonner une autre vie pour gagner davantage, plutôt que de souffrir de ces éléments-là.
Donc, il n'y a pas de saut métier.
Non, c'est sûr, il n'y a pas de saut métier, on n'a pas de cesse de le dire. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ce que disait Mme Sani, c'est que c'est extrêmement important de savoir que la créativité a un vaste champ avec toutes ces transformations qu'on peut faire. Et vraiment, c'est à l'infini qu'on peut développer tout ça.
Voulez-vous réagir, Madame Sani?
Oui, c'est vraiment bien tout ce qu'ils font, mais je suis triste d'un autre côté parce que je me dis qu'on a la fuite des capitaux, dans le sens où on exporte toujours vers le Nigeria. Alors qu'ici aussi, on pourrait avoir une industrie qui pourrait utiliser ces fers vraiment sur le plan local et produire d'autres choses. Mais je me dis tout ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Les gens qui sont dans ce secteur, c'est à nous de sensibiliser davantage, même le gouvernement s'il le faut, pour qu'ils croient davantage en ce que les gens font et que le recyclage vraiment peut changer la vie des gens aussi, ça peut changer le visage d'une capitale.
Quels sont les avantages économiques et environnementaux liés au recyclage?
Il l'a déjà dit, le jeune, c'est vraiment déjà lui, il arrive à avoir son salaire dedans. Non seulement ça sensibilise, en fait, je me dis, ça aide la communauté. Ça nous aide déjà, nous les acteurs, ça aide la communauté, mais ça aide tout le monde. Parce que si aujourd'hui, Afrique Fondation Jeune emploie et forme 100 jeunes, qui à leur tour pourront former 100 ou 200 jeunes? C'est une chaîne, c'est une continuité. Et au final, chacun aura quelque chose à faire. Parce que ma conviction, c'est que tout ce que tu sais faire avec tes mains, ça ne te lâche jamais. Tu peux avoir des aptitudes, des connaissances, tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais parfois, ça peut ne pas aller au-delà de ta créativité. Mais tout ce que tu peux créer avec tes mains, ça ne te lâche pas. Et c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est qu'on forme une chaîne infinie de gens qui peuvent influencer et à leur tour former d'autres jeunes pour faire de ce recyclage un métier d'avenir.
Est-ce qu'à votre niveau, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu?
On essaye. Depuis 2016, on avait formé une dizaine de jeunes et on continue parce qu'on ambitionne d'aller dans les régions parce que ça ne s'arrête pas seulement à Niamey. Ça arrive petit à petit, on lâche rien. Parce que dans tout ce que tu fais, que ce soit dans le recyclage, dans toute chose, je me dis, il faut croire en ce qu'on fait en soi pour influencer les autres. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Comment est-ce que vous arrivez à écouler vos produits?
J'ai vraiment eu beaucoup de reportages, si je peux le dire, à la télé et tout, invité, tant au plan national qu'international. Donc ça fait que j'ai quand même mon carnet d'adresses. Mais c'est surtout plus les expatriés qui sont au Niger ou les étrangers qui en commandent. Donc voilà, ils nous appellent, on a vu tel et tel produit, on en veut. Il y a les Nigériens aussi qui commandent, mais c'est plus les expatriés qui commandent les produits. Donc peut-être c'est aussi à notre niveau, on doit faire une communication, la sensibilisation pour leur montrer que les objets recyclés ont de la valeur pour que ça soit écoulé davantage.
Qu'est-ce que vous avez comme produit recyclé à votre niveau?
Beaucoup de choses. Comme je vous dis, vous savez, je suis dans le recyclage. Si aujourd'hui un client m'appelle, il me dit il veut tel, tel ou tel, je ne le dirai pas que je ne fais pas. Parce qu'on a toujours des gens avec lesquels on travaille. Moi, essentiellement, je travaille sur les pneus. Mais au-delà, il y a les fers aussi qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi les sachets parce qu'on fait le tricotage, des petits sacs, des nappes. C'est beaucoup de choses, quoi. On est une équipe et chacun a déjà ses compétences. Parce que ce qui est intéressant avec les jeunes avec lesquels nous travaillons, la majorité ont travaillé dans les foyers féminins. Donc, ils ont déjà certaines aptitudes. Parfois, c'est eux qui viennent me dire voilà des choses qu'on peut faire ou voilà des choses qu'on a vues. Et ensemble, ensemble, on le fait. Donc, je ne dirais pas spécifiquement, voilà la chose sur laquelle on est. Parce qu'on avait commencé avec les bidons, les pneus, les sachets. Et là, on a introduit aussi les fers parce que c'est possible.
Suivons encore un autre jeune qui va nous parler de comment lui il mène cette activité.
En réduisant le volume de ces boîtes, ça devient plus lourd. Et là, nous pouvons avoir 110 kg à 120 kg. Donc, c'est un plus. Bon, souvent, nous rencontrons les tracasseries des éléments de la force publique au cours du voyage, car parfois, ils exigent même le montant que nous devons leur donner. Tu fais tout, mais il reste inflexible. Tu es obligé de lui remettre ce qu'il a demandé pour passer. C'est pourquoi souvent, après la vente du produit, nous nous trouvons sans bénéfice. Notre souhait est qu'ils acceptent le peu que nous leur donnons, car relativement à nos calculs, pour avoir au moins nous aussi un peu. Nous circulons en ville avec de petits jouets, voitures, avions, motos et fusils pour enfants. Quand l'enfant amène 3 boîtes, nous lui donnons une voiture ou une moto. Si c'est 4 ou 5 boîtes, nous lui donnons un fusil. Nous faisons toutes les rues et ruelles de la ville. Quand on nous présente 4 vieilles paires de chaussures en plastique, nous remettons un lot de jouets. Les vieux foyers de cuisine que les femmes nous apportent réclament un gobelet ou autre ustensile de cuisine. Bon, nous le prenons s'il fait 2 kilos ou 1 kilo et demi. Là, on peut lui donner une bassine. C'est ce que nous faisons. Les jeunes, nos frères, nos aînés qui restent sans rien faire, je leur demande de se réveiller, de se tenir debout pour trouver de quoi faire. Car rester sans rien faire, c'est un mal qui, un jour, peut entraîner au vol du bien d'autrui.
Voulez-vous réagir, Ousmane? Je commencerai par vous.
Je pense que ça confirme ce que le précédent intervenant a eu à dire, n'est-ce pas, sur l'économie, sur l'emploi. C'est tout un business.
La et chaîne de production, la de chaîne, commercialisation.
Comme on dit, voilà, c'est toute une chaîne de valeur. Ça ne date pas de maintenant. Depuis très longtemps, il a été démontré que c'est des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de millions qui se font à Katako notamment, qui est le centre par excellence de collecte et tout ça. Vous aviez des camions entiers que vous pouvez voir sortir du marché, remplis de fer, remplis de vieilles chaussures, etc., qui sont donc des produits de collecte pour être utilisés, alimentés de d'autres industries ailleurs. Parce que le fer repart parfois jusqu'en Chine. Comme vous voyez, par exemple, les moteurs que nous, on n'utilise pas ou qu'on ne peut pas fondre ici en Afrique, ça repart jusqu'en Chine pour que ça soit refondu et refabrique autre chose pour venir nous le vendre. Donc, en fait, on se fait, on va dire, avoir à tous les niveaux parce que sur les produits initiaux, on nous les amène, nous les achetons, c'est notre argent qu'on prend. Notre déchet, on le rachète à vil prix et on va, on le recycle et on vient nous le vendre encore du produit initial. Donc, on est toujours systématiquement, nous, en train de dépenser et aux autres de gagner. C'est un peu même sur ces questions de balance commerciale. Si on regarde, on est relativement perdant.
Vous voulez réagir, Madame Sen?
Il a tout dit.
Il a tout dit. Et nous allons rester avec vous, Ousmane. Qu'est-ce que vous faites comme activité de recyclage au niveau de Afrique Jeune Foundation?
L'activité, en fait, de recyclage est un élément parmi tant d'autres dans le sens de regarder comment créer des activités d'emploi pour les jeunes. Ce qui nous intéresse particulièrement, qui nous a intéressé, c'est l'idée que souvent les jeunes qui viennent nous voir nous disent, voilà, nous on n'a rien, on n'est rien, on ne connaît rien. Et alors on part de cette idée que vous êtes important et on va regarder tout ce que les gens considèrent comme rien qui peut avoir de la valeur, d'accord, et donner de la valeur pour que les gens s'élèvent alors que, voilà, initialement on a considéré qu'ils n'ont pas de valeur eux-mêmes, etc. Donc quand on a, par exemple, sur des bouteilles, que ce soit des pneus, qu'on a commencé à utiliser notamment dans le domaine de l'agriculture, nous avons créé quelque chose qu'on a appelé AgroFresh pour en fait rafraîchir l'air. Ça peut s'utiliser à la fois dans les jardins, mais aussi sur une terrasse où certains même l'installent local à l'intérieur de la maison. Donc, en dehors de ça, il y a des applications désormais que nous sommes en train de développer. Par exemple, il est possible de faire quelque chose qui va permettre de conserver les aliments, notamment des fruits, des légumes ou d'autres aliments, de l'eau qui peut être rafraîchie. C'est quelque chose sur lequel nous sommes actuellement en train de travailler. C'est possible d'associer toujours cette fabrication initiale avec quelque chose qui peut être comme un canari fontaine, etc. Donc, c'est sans limite en réalité ce qui peut être fait. Ce qui peut être fait, la limite, c'est juste dans l'esprit des gens, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut fabriquer. Maintenant, c'est moins la diversité des produits qui est intéressante que de se dire on peut organiser des métiers. Les gens peuvent travailler en chaîne de valeur. Si vous faites un rafraîchisseur d'air avec des pneus et des bouteilles, vous pouviez faire travailler 4 types d'entreprises. Vous pouviez avoir quelqu'un qui va collecter des pneus, des bouteilles. S'il y a des commandes de 100 produits, lui, il sait que dans le mois, il doit ramasser au moins 100 pneus, qu'il doit ramener 100 ou 1000 ou 2000 bouteilles. C'est un travail qui le dépasse et il sera obligé d'employer quelqu'un d'autre. S'il amène, il y en a quelqu'un d'autre qui, lui, va faire l'assemblage. Assembler 2 ou 3 pneus dans la semaine, c'est à l'échelle d'une personne. Mais quand on en a 100 à faire, il va falloir trouver des employés aussi. Celui qui va, par exemple, décorer, mettre de la peinture, c'est un travail qui nécessite également d'avoir des apprentis ou en tout cas des aides. Ça veut dire qu'il emploie aussi des personnes. Celui qui va, par exemple, faire les branchements électriques, lui aussi, c'est un travail qu'il donne à d'autres personnes. Donc, vous voyez, nous pouvons organiser des chaînes de valeur où chacun, à son niveau, va se retrouver, va créer quelque chose d'intéressant, une occupation et des emplois. Et il a donc des revenus. C'est ça qui nous intéresse. C'est vraiment de regarder que les jeunes, on peut créer des emplois à partir, évitons d'appeler ça des déchets, mais vraiment sur de la ressource recyclable. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce que nous jetons, quasiment à 100%, tout est utilisable. Sauf que nous ne le faisons pas. Dans d'autres pays, ça se fait.
Est-ce que ces jeunes tirent profit de cette activité?
Pour l'instant, je n'ai pas encore à l'échelle. Notre souhait, ce n'est pas juste quelques éléments qu'il faut faire. Il faut arriver à créer vraiment un véritable mouvement d'ensemble qui va créer une économie. Pour l'instant, on est à nos débuts. On espère que les choses vont aller. Mais il y a aussi, pour arriver à l'idée que vous avez un produit qui a été fait avec de la matière recyclable, qui va être acheté par les ménages, par les particuliers, on peut passer par d'autres étapes. Et aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises qui financent des activités que nous faisons. Par exemple, nous faisons des jardins hors sol, c'est-à-dire qu'avec, par exemple, des pneus, on peut faire de la décoration, faire des pots de fleurs, etc., qui sont achetés par des entreprises qui savent que quand elles donnent de l'argent, eh bien, cela repart dans une économie, comme on dit, une économie circulaire. Ça veut dire que ça fait employer des gens qui gagnent. Et elles-mêmes, ces entreprises, elles utilisent ce travail-là dans leur communication pour dire, nous, on est une entreprise qui est responsable sur le plan écologique, qui soutient également un peu sur le plan sociétal les jeunes. Voilà. Donc, il y a, sans pouvoir dire dans un premier temps que cette activité en soi, voilà combien nous gagnons, qu'est-ce que nous faisons. Comme je disais, on est un peu à nos débuts parce que c'est l'offre et la demande. On a l'offre, la demande n'est pas forte. Aujourd'hui, dans ce pays, malheureusement, on souffre beaucoup de ça parce que pour ce qui est produit ici,
on ne consomme pas local.
Les gens n'aiment pas consommer local. Il y a tellement de barrières qui sont dans la tête. Mais il n'empêche qu'au niveau, par exemple, des entreprises, il y a une réelle prise de conscience. Il y a des choses intéressantes qui se font. Je veux parler, par exemple, d'une entreprise avec laquelle nous sommes en train de travailler qui veut sensibiliser son personnel pour dire que chaque fois que vous changez de pneu, au lieu de les laisser chez le vulcanisateur qui risque de le donner ou bien de se faire voler ses pneus qui vont être brûlés quand il y a une manifestation, eh bien, faisons en sorte qu'il y ait un contrôle de ce que nous n'utilisons plus, les pneus. Remettons-les à Afrique Fondation Jeunes pour qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, il y a par exemple des collectes qui se font aussi avec une association, le club Toastmaster. Par exemple, sur une école, nous avons pu et nous sommes en train de travailler à aménager des espaces grâce à pneus qui sont recyclés, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles avec les jeunes pour que les enfants comprennent qu'un pneu, ce n'est pas dans un caniveau sa place. On peut faire autre chose avec et ils peuvent, ne serait-ce que pour s'asseoir, on peut essayer de fabriquer des choses là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à Niamey, à l'école Yantala 4 et 5, vous allez, vous trouverez des enfants qui sont assis à même le sol. Vous aviez vos camarades qui sont assis sur des tables bancs et vous, vous êtes assis à même le sol. Vous devriez écrire, faire la composition et être corrigé de la même manière. C'est pas facile, mais on introduit déjà l'idée de l'injustice dans une même classe entre les enfants. Alors que bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire dans même le recyclage. Et j'ai vu un jeune entrepreneur nigérien qui, par exemple, recycle avec Orange tout leur matériel. Quand vous avez, par exemple, des groupes électrogènes, etc., ils fabriquent des tables bancs avec, qui sont utilisés utiliser. Donc, au lieu que ça soit jeté ou stocké dans des magasins, Orange le paye pour qu'il fasse des tables bancs qui sont offertes aux élèves donc, dans les écoles. C'est tout un processus. Il faut que nous aussi, on soit créatifs dans la façon dont nous faisons nos offres pour que, dans un premier temps, les sociétés, les entreprises qui prennent conscience agissent avec nous pour espérer que l'État, quand il verra que tiens, c'est quelque chose de porteur, espérer que l'État s'engage et que les particuliers aussi fassent le mouvement. On est presque à un début hein, au Niger. Même si, depuis de longues années, le Niger est un peu au carrefour de la collecte sur du plastique lourd, du plastique un peu dur et du fer. On approvisionne effectivement certaines usines au Nigeria ou ailleurs, au Ghana. Il n'y en a pas encore ici. Peut-être qu'on peut espérer que les choses peuvent se faire dans l'avenir.
Et quel appel lancez-vous à l'endroit des jeunes qui sont au chômage et qui n'ont pas encore compris que les déchets rapportent beaucoup d'argent?
J'ai souvent tendance à dire, il faut aussi qu'on arrête souvent de trop culpabiliser les jeunes. Il y a beaucoup de barrières sociales dans la tête, etc., qui font qu'on n'arrive pas toujours à faire le pas. Moi, je dis, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, pour transformer, il faut avoir beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, d'accord? Pour se dire, moi, je peux prendre un pneu, je l'habille, je le rends beau et je le mets dans mon salon et je n'ai pas honte, je ne suis pas gêné.
Et le changement de mentalité
de mentalité et de comportement. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, il y a juste 2-3 semaines, un jeune qui était en train de décorer un pneu avec de la peinture, un autre qui arrive et qui lui dit, mais attends, toi, tu n'as pas de travail ou quoi? Alors qu'il ne sait pas que lui, il a une commande de 30 000 francs qu'il est en train d'exécuter, d'accord? Et qu'il se moque de lui parce que c'est dans la tendance globale. Dès qu'on voit quelqu'un, ce n'est pas de l'encourager, ce n'est pas de le féliciter. C'est d'abord de dire, bon, voilà. Si on va parler de Madame Sani, on va dire, ah, celle qui travaille avec les pneus usagés. On ne va pas dire celle qui est créative, qui est intelligente, qui fait, qui fait voilà, des choses intéressantes. C'est toujours ça aussi, c'est une barrière qui fait que les jeunes ne vont pas souvent vers ça. Mais un jeune qui a confiance en lui, tous ceux qui sont assis là et qui attendent, je ne sais pas, un miracle, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Moi, je dis, quelqu'un qui a de l'estime de soi ne peut pas venir passer une journée devant une rue, regarder des voitures passer. Je le dis aux gens, ne les insultons pas parce qu'ils ont des insuffisances et eux aussi qu'ils ne croient pas que ceux qui s'engagent à faire quelque chose, eh bien, eux qui sont assis sont mieux que ces personnes. Donc, c'est tout un processus aussi mental qu'il faut qu'on engage dans ce pays pour se dire qu'il faut donner de la valeur à ce
vaillant,
que
rien
d'impossible. Absolument.
Nous allons observer une pause avant de continuer ce forum. Et nous allons revenir dans ce studio pour continuer ce forum. Ce n'est un secret pour personne. Depuis quelque temps, les autorités nigériennes se sont engagées pour assainir la ville de Niamey, notamment Niamey-Niala, qui est lancée depuis quelques années. À votre avis, est-ce que cette activité de collecte, de recyclage et de vente des objets en fer et en plastique contribue à assainir la ville, Madame Sani?
Personnellement, je dirais que tout est une question de moyens. C'est-à-dire, pour moi, Niamey-Niala, c'est un long processus. C'est-à-dire, c'est du point A au point Z. Il faut impliquer tous les acteurs qui concourent à cette mission. Parce que c'est un grand truc, une ville vraiment belle, propre, salubre, c'est pas un truc que tu claques les doigts et puis ça le fait. C'est toute une question de sensibilisation et de communication. Pour toutes ces personnes aussi qui ont leur petit business dans la collecte, le traitement et le recyclage, je me dis que c'est des acteurs clés. Parce que indirectement, ils concourent et ils contribuent à rendre la ville un peu plus propre. Mais au-delà, comme je dis, il faut les impliquer. Il faut les sensibiliser et il faut aussi vraiment leur montrer que ce qu'ils font a de la valeur. Parce que vous savez, le plus souvent, si je me permets, peut-être ces gens n'ont pas été à l'école ou n'ont pas un niveau d'éducation vraiment requis. Donc, il faut leur parler, leur faire comprendre que vous êtes aussi les premiers acteurs du développement de ce pays. Et c'est ensemble qu'on fera les choses. Moi, je me dis, ça arrive, c'est possible. Mais sans communication, sans sensibilisation, pour eux, ils ne font que chercher de l'argent. Vous savez, on a écouté ces deux jeunes. C'est vrai, oui, on n'est pas oisif. On cherche notre argent. Mais au-delà, ils contribuent à embellir la ville. Il faut qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils soient vraiment fiers d'être acteurs de ce changement.
Et vous, Ousmane, pensez-vous que cette activité contribue à assainir la ville?
Bon, c'est clair. Mais comme elle l'a dit, c'est tout un processus qui ne doit pas finir. C'est-à-dire que procéder au recyclage des matières recyclables qui, leur concentration, nuit à la fois à l'environnement, nuit à la beauté justement de cet environnement et parfois va va même engendrer des problèmes de santé. Donc, il est tout à fait normal de penser à comment les déchets que la ville produit sont réutilisés, sont traités de façon à ce que, effectivement, ça ne puisse pas poser de problème. Vous voyez, pendant la saison des pluies, les caniveaux qui sont obstrués. Il y a des personnes qui vont jeter leur matelas, leur vieux matelas dans un caniveau. Cela peut provoquer des inondations. Les pneus sont rejetés, n'importe quoi est jeté, par exemple, dans des caniveaux où les voies d'eau sont obstruées. Comment on peut dire que la ville va s'embellir sans les habitants de la ville ont effectivement intérêt à comprendre et puis à jouer le jeu. Donc, je pense même que la moitié du travail consiste à voir comment les déchets sont de façon systématique traités de la maison jusqu'à la décharge publique et de la décharge publique vers des industries et autres qu'il faut. Parce qu'il y va de tout ce qu'on est en train de construire. Si vous mettez des arbres et que ces arbres sont recouverts de sachets plastiques noirs, c'est ça que les gens vont voir. Quand les gens viendront à Niamey, ils ont déjà vu des immeubles un peu partout. Mais voir un arbre qui est couvert de sachets plastiques à côté d'un immeuble, ça fait une belle photo pour se moquer du Niger. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est important de mettre des milliards pour construire les infrastructures, mais il faut penser à au moins l'équivalent. C'est même pas l'entretien de ces infrastructures, mais il faut mettre l'équivalent pour amener les populations à être au niveau des infrastructures qui sont réalisées.
Il existe plusieurs avantages environnementaux liés à la collecte et à la commercialisation des déchets en plastique et ceux en fer. Monsieur Salifou Hassan, responsable d'une ONG dénommée École Instrument de la Paix, qui a beaucoup travaillé sur la question, nous en dit plus.
Nous avons beaucoup travaillé au Niger sur toutes les problématiques environnementales, en allant de la gestion des déchets à la gestion aussi des plantes aquatiques envahissantes sur le fleuve Niger, à des questions d'assainissement, à l'éducation en environnement, la sensibilisation et beaucoup d'autres choses que nous sommes en train de voir qu'elles sont en train d'être évoluées parce que les gens ont pris ça et puis ils sont en train de s'en servir. Nous nous en réjouissons beaucoup.
Au Niger, depuis un certain temps, le recyclage des objets en fer et en plastique prend de l'ampleur. Sur le plan environnemental, quels sont les avantages liés à cette activité?
Il y a beaucoup d'avantages parce que, au fait, nous sommes en train de renvoyer ce qui nous a été amené. Il faut juste organiser ça pour pouvoir le faire de façon beaucoup plus précise, pour que non seulement celui qui ramasse les déchets puisse gagner quelque chose, mais que l'État aussi puisse gagner quelque chose dans ce renvoi que nous sommes en train d'observer. L'État, à lui seul, par exemple, à travers le ministère de l'Environnement, peut développer une cellule qui va s'occuper de l'entassement, l'assemblage des déchets de la ferraille selon des catégories et maintenant traiter avec, par exemple, un grossiste qui est, par exemple, au Nigeria, etc., qui vient ramasser régulièrement. Parce que eux là-bas, ils ont des usines de transformation. Donc vraiment, je pense que c'est un avantage.
Cette aire de Niamey-Niala, là, est-ce que cette activité permet d'assainir la ville de Niamey?
Ça dépend de la mairie. La mairie peut le faire. Mais je pense que la mairie dispose d'un personnel très composite qui souvent ne répond pas, par exemple, aux ambitions ou à la vision qu'on veut à travers la réalisation de Niamey-Niala. Je donne un exemple. Au niveau du garage mairie, vous avez un centre de traitement de déchets ou quoi. Mais allez voir, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien, on ne fait rien. On a ramassé des sacs de plastique, on a laissé. Ce n'est pas que le centre ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il n'y a pas de personnel approprié qui connaît comment il faut faire le travail. Voilà, donc c'est des questions de ce genre-là qu'il faut un peu revenir, s'asseoir, regarder, et puis matérialiser et organiser cela. La mairie, à travers l'objectif Niamey-Niala, peut faire beaucoup de choses dans ce domaine-là et nous éviter vraiment d'avoir des déchets qui soient entassés un peu partout là. On peut forcer la main à tous ceux-ci là qui jettent des carcasses de véhicules dans les rues, les ruelles de Niamey. On peut aussi, par exemple, tout ce qui est plastique là, dégager des endroits où il faut les amener, moyennant peut-être quelque chose. Il n'y a pas de centre de réception. La mairie peut organiser cela de cette façon. Qu'il y ait des endroits ou si vous avez un seau en plastique qui est abîmé, au lieu de le jeter, amenez-le là-bas. Mais toutes les maladies que nous avons, cancer du sein, mais quand les femmes allument du feu de bois pour préparer un repas avec du plastique, vous pensez que quoi? Le plastique là n'est pas parti. À travers la flamme, la fumée, il traverse la marmite et il va dans l'alimentation que nous mangeons. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude dans toutes les familles presque où on prépare avec du bois. C'est le plastique qu'on utilise à la place du pétrole ou de la paille pour allumer le bois.
Donc cette activité permet quand même de gagner ?
Cette activité, d'abord, elle va réduire à long terme l'effet toxique. Et deuxièmement, elle va permettre aussi, c'est que si les gens sont très sensibilisés, on va entasser et organiser le retour au lieu qu'on les brûle.
Et les objets en fer, ils ont aussi des effets toxiques sur l'environnement ?
C'est pas des effets toxiques sur l'environnement. Vous savez, il y a certains alliages qui sont faits avec certains matériaux dont leur exposition développe aussi des aspects très toxiques, cancéreux. Prenez par exemple les appareils cellulaires. Là, il y a des morceaux de cobalt, de l'or, tout ça dedans dans un appareil cellulaire. Mais ceci-là, quand il est dégradé, on le laisse, ça, c'est dangereux. Donc tout ça là, que ce soit des déchets de plastique ou des déchets de ferraille là, tout est mauvais. Surtout quand on le laisse se rouiller pour le faire. Et l'autre, on le laisse s'altérer, mais il ne s'altère pas parce qu'il n'est pas biodégradable.
Dans la troisième partie de ce forum, nous allons évoquer les difficultés liées à ce métier de recyclage et les perspectives. Monsieur Ousmane Dantata, comment encourager les acteurs qui interviennent dans le circuit du recyclage face aux difficultés qu'ils rencontrent ?
Je pense que déjà un besoin d'organiser toutes ces filières-là ou la filière globalement du recyclage. Il faut savoir qu'elle peut nous faire gagner des points dans notre produit intérieur brut si nous voyons comment on peut l'organiser. Ça pourrait créer des emplois, ça pourrait créer de la richesse. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tel que c'est en train de se faire dans l'informel, nous sommes en train d'aggraver la situation, par exemple, de la santé des populations. Vous avez aujourd'hui des boîtes de conserve qui sont utilisées en même temps que des emballages, par exemple, de pesticides, de produits chimiques dangereux. On fait des marmites avec ou des ustensiles divers avec. Et donc, on sait qu'à la fin, ça pourrait poser des problèmes. Il faut, par exemple, réglementer le fait que brûler des pneus, c'est libérer plein de gaz toxiques pour déjà les personnes qui le font. Parce que si quelqu'un connaît une personne qui a 75 ans et qui, pendant 10 ans de sa vie, à un moment ou à un autre, a eu à brûler des pneus tous les jours, comme me la montre. En fait, c'est pour vous dire que ces personnes-là s'empoisonnent, d'accord, et empoisonnent la population. Toutes ces particules, en fait, qui rendent l'air irrespirable. Je ne sais pas, un moment quand, vers le lycée Kasey, quand c'était le bas-fond dans lequel il y avait une concentration de pneus brûlés, quand vous passez dans cette zone, eh bien, l'air est suffocant. Il y a des gens qui, par exemple, avec les cas d'asthme, etc., qui se développent. Donc, il y a un problème de santé publique lié à l'activité de recyclage aujourd'hui dans notre pays.
De façon artisanale.
C'est artisanal, c'est inorganisé. Il y a des produits qu'on ne doit même pas transformer de la façon dont on les transforme. Un pneu, il est fait de plusieurs dizaines de produits chimiques. Imaginez une voiture qui roule à 200 km à l'heure. 100 km, quand vous touchez le pneu à l'extérieur, il est brûlant. Et pourtant, ce pneu-là, il y a des matières qui le composent, qui font qu'il ne va pas poser de problème. C'est à cause des produits chimiques qui ont été utilisés pour faire le pneu. Eh bien, nous, ici, on vient, c'est ce pneu qu'on brûle. Et c'est les fers qu'on récupère sont, par exemple, utilisés par les ménagères pour préparer avec. Donc ça, c'est un problème pour la ménagère qui inhale des produits toxiques. C'est un problème pour les aliments qui sont cuits avec tout ça. Donc, on a un problème, une urgence vraiment de santé publique, de regarder comment on organise ce domaine, ce secteur, qui peut par ailleurs être très intéressant économiquement.
Et Madame Sani Amina, quel avenir pour ce métier au Niger ?
Moi, vous savez, je suis trop optimiste dans tout. J'y crois que ça fait partie d'un des points vraiment culminants du développement de ce pays. Parce que pour moi, recycler, les ressources recyclables, c'est vraiment permettre le développement d'une nation. Parce que imaginez si, au lieu de tout exporter vers le Nigeria, on a déjà toutes ces usines ici où on les transforme et qu'on les réutilise. Mais on n'aura plus de fuite de capitaux. Tout notre argent va rester sur place. Ça veut dire qu'on pourra se développer vraiment sur tous les points. J'y crois que ça va arriver. Mais pour cela, il faut que tous les acteurs vraiment s'y impliquent. De l'État à nous autres. Il faut qu'on mette main dans la main pour qu'on le fasse. Parce que moi, j'aime le dire en fait. Au finish, c'est pas pour nous. C'est parce qu'on aime ce pays qu'on le fait. Tout ce qu'on fait, c'est un jour, tu vas mourir. Mais si tu as fait, que les autres soient inspirés et qu'ils continuent. C'est ça la magie de la chose. J'y crois, on y arrive et on va le faire.
Ousmane, comment organiser ce secteur-là pour que ça soit plus rentable?
Bon, je pense que ça doit se faire déjà par l'État, mais aussi avec les acteurs de ces domaines-là. Parce que, comme je le disais, depuis de très très longues années, c'est c'est un secteur qui existe, qui est assez professionnel et il faut réfléchir avec d'autres aujourd'hui qui sont arrivés un peu sur le champ, sur le terrain, pour travailler avec eux et réfléchir à la façon dont on va organiser ça. Ça pourrait se faire avec notamment la chambre de commerce, avec les opérateurs économiques, parce que en vérité, nous avons beaucoup d'opérateurs économiques, mais il y a une concentration dans des activités qui se ressemblent, etc. Alors que c'est un secteur d'investissement, c'est un secteur qui permettrait vraiment à la fois aux opérateurs économiques de faire des affaires, de créer des entreprises, de créer des industries, mais aussi évidemment de créer des emplois. Donc il faut, à mon avis, une stratégie nationale dans ce domaine. Je ne sais pas si celui qui peut-être est aujourd'hui plus approprié pour le faire, c'est le ministère de l'Environnement, peut vraiment prendre ce dossier en main.
Quelle perspective pour que cette activité ou filière soit rentable au Niger?
On fait déjà ce qu'on peut et on fera encore davantage. Comme j'aime le dire et ce que je viens de vous dire, il faut toujours être optimiste et croire en soi. Comme disait M. Ousmane Dantata, c'est-à-dire il faut aimer ce qu'on fait et aller au-delà des critiques et des préjugés. Parce que tu fais quelque chose que tu aimes et après c'est certain que ça va attirer les gens. Parce qu'on se dira que ça a vraiment de la valeur. J'y crois, ça a de la valeur et c'est ce qu'on fait. On le fera jusqu'à ce que le gouvernement s'y mette et que tous les acteurs s'y mettent pour développer ce secteur.
Oui, chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum qui a porté sur le métier de recyclage du fer et des objets en plastique. Il ressort de ce forum que c'est un secteur qui regorge de beaucoup de potentialités, mais ce secteur nécessite d'être réorganisé pour que tous les acteurs intervenant dans ce métier se retrouvent et que ce secteur soit plus rentable. À la présentation, c'était Balkis Amidou, à la technique Seyni Issaka. Merci d'avoir été des nôtres.